Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait ?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur ?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, alors on ne sait toujours pas quand rouvriront les salles de cinéma. En attendant, on a les yeux rivés sur nos télés et nos écrans à l'affût des sorties VOD, DVD et des propositions sur les plateformes de streaming. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler du feu avec toi Guillaume.
C'est ça, et de sa guerre. Hein.
De sa quête.
Le film de Jean-Jacques Hano, sorti en 80.
La guerre du feu.
Qui ressort dans une très belle copie chez Gaumont. Je tiens à le préciser parce que la copie précédente était immonde.
Et toi, Manu, c'est un film en duo.
Oui, deux yeux maléfiques, hein, deux histoires adaptées d'Edgar Poe par Georges Romero et Dario Argento.
Quant à moi, eh bien, j'ai préparé un blind test spécial Steven Soderbergh. Soderbergh dont on a parlé la semaine dernière, puisque son dernier long métrage, La Grande Traversée, eh bien, passe directement à la télévision sur Canal Plus Première. Et quant à Marine, eh bien, elle va nous parler de Night in Paradise, film coréen sanglant et romantique sur Netflix. Et puis un autre film qui passe sur Netflix, c'est Into the Beat. C'est l'histoire d'une jeune ballerine qui découvre le hip-hop. Et on commence avec ça. Bienvenue, c'est Cinérama.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Vous n'avez plus que 8 semaines pour préparer les auditions. Gardez bien en tête que la New York Ballet Academy ne décernera de bourse qu'à une seule d'entre vous.
Le corps d'un danseur est un instrument. Il sert une cause plus noble. La beauté idéale, la perfection.
Katia est une jeune ballerine très prometteuse et pour cause, dans sa famille, on a la danse classique dans le sang. Son père, grand danseur étoile, vient de se blesser et compte bien sur elle pour prendre la relève. Mais Katia découvre un nouvel univers, celui du hip-hop. Loin de l'enseignement étriqué de la danse classique, elle rencontre une nouvelle famille, découvre une nouvelle façon de danser et se lie d'amitié avec Marlon, qui va lui faire voir la vie autrement. Katia se retrouve alors face à un dilemme. Doit-elle renoncer à la danse classique et décevoir sa famille pour se jeter à corps perdu dans le hip-hop ?
C'est quoi cet endroit en fait ?
Battleland ? Ce sera toujours l'endroit idéal pour danser et traîner un peu. Joins-toi à nous si tu veux.
Je viens de te voir danser.
C'était une première pour moi.
Ouais, ça j'avais remarqué. C'est un peu comme un courant qui émane du ventre et qui traverse ton corps de toutes parts. Et ensuite, il explose en dehors de toi. C'est ça la danse.
Alors s'il y a un style qui n'a pas beaucoup évolué hein, depuis 20 ans, c'est bien le film de danse. Suite aux Footloose, Dirty Dancing et autres flash dance, les films de danse produits au cours de ce siècle-ci se sont vraiment contentés de reproduire un schéma ultra simpliste, tous coulés dans le même moule absolument dépourvu d'audace, de subversion et d'inventivité. En effet, depuis Save the Last Dance en 2001, on retrouve régulièrement la même formule. Une jeune femme formée à la danse classique s'ouvre à une nouvelle forme de danse grâce à un mentor qui, lui, vient d'un milieu social moins aisé, avec qui elle va aussi découvrir l'amour. On a donc eu par la suite sur nos écrans Sexy Dance, Sexy Dance 2, Sexy Dance 3, Sexy Dance 4 et 5. En France, on a eu Let's Dance avec Ryan Bensetti qui reprenait exactement le même concept. Et en 2021, Into the Beat donc transpose l'action en Allemagne.
Quand je fais du hip-hop, il se passe quelque chose de différent. Tout s'éclaire en moi d'un seul coup.
Meuf, les Tigers se ramènent. Ils font une audition la semaine prochaine pour recruter du monde sur leur nouveau show. Toi et moi, en duo, ça te chauffe pas ?
Réalisé par Stephen Westerwelle, on ne peut pas dire que le film renouvelle le genre, mais à condition de le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un teen movie dans le but et surtout de montrer un maximum de scènes de danse, eh bien Into the Beat se laisse regarder sans déplaisir. Alors bien sûr, le film baigne dans un manichéisme absolu. Les élèves du cours de danse classique sont de frigides poupées taillées pour la compétition et prêtes à tout pour se tirer dans les pattes, tandis que les danseurs du cours de hip-hop sont tous de gentils jeunes représentant une joyeuse diversité aux vêtements vintage colorés et débordant de bonnes intentions et de solidarité. D'ailleurs, en 2021, on peut dire quand même que l'opposition entre danse classique et hip-hop telle qu'elle apparaît dans le film est clairement dépassée à une époque où les frontières entre les styles de danse sont quand même relativement abolies. Mais l'intérêt principal d'un film de danse n'est finalement pas ce qu'il raconte, mais plutôt la manière dont il filme la danse. Filmer la technique est une chose, mais réussir à filmer l'euphorie, à filmer le plaisir de la danse en est une autre. Et Into the Beat, il parvient plutôt bien, même si le film déverse de la bien-pensance au tractopelle sur des musiques parfois un peu compliquées à supporter.
On va y arriver, d'accord ?
Into the Beat, c'est depuis le 16 avril sur la chaîne Netflix. Voilà un film qui est sorti depuis quelques années déjà. On retourne à l'âge de pierre, à la recherche du feu. Et c'est avec toi, Guillaume, c'est la guerre du feu de Jean-Jacques Hano.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Donc du coup, la question qui se pose, c'est que faisiez-vous en 1982 ? Alors, mon détournement de la célèbre accroche d'American Graffiti, hein, donc où étiez-vous en 62, hein, n'est pas innocent car les amateurs de cinéma aiment à se rappeler les bons souvenirs de cette année. Bah, imaginez-vous, on a découvert ce grand écran Coup de cœur, Conan le Barbare, Blade Runner, E.T., Creepshow, The Thing, Videodrome, The Wall, Dark Crystal, Les Maîtres du Temps, Tron... Au milieu de cette explosion principalement américaine, il y a un Français, Jean-Jacques Hano, donc qui a su s'imposer quelques mois plus tôt dans cette course à l'imaginaire totalement débridée. Au moment où sortent et triomphent la plupart de ses films, lui récolte les lauriers d'une entreprise sacrément culottée et qui allait annoncer tout ce déferlement, hein, entièrement tourné vers un spectacle total, généreux et ambitieux. Son nom, eh ben, rien de moins que la guerre du feu. À l'origine, La guerre du feu est un livre de Rosny Henné paru en 1909, hein, et qui connaîtra un succès non démenti pendant une très grande partie du XXe siècle. S'arrangeant avec l'histoire et quelques considérations scientifiques, le récit de Rosny nous mène environ 80 000 ans en arrière et raconte l'histoire d'une tribu d'hommes préhistoriques, donc, qui perdent leur source de feu. Ne sachant pas le recréer, elle est contrainte d'envoyer plusieurs de ses membres au cœur d'un voyage qui va se transformer en épopée pour pouvoir le retrouver et ainsi assurer sa survie. Ce périple homérique, ou plutôt pré-homérique, va changer à jamais le cours de l'humanité car de ces épreuves naîtront une plus grande maîtrise de l'environnement, la domestication donc du feu, hein, mais également la naissance de l'amour. S'il est reconnu depuis bien longtemps, hein, que le livre de Rosny Henné n'est pas vraiment correct au point de vue réalisme, il a néanmoins créé, hein, de par sa vulgarisation scientifique, un intérêt phénoménal pour cette période fascinante. Jean-Jacques Hano ne s'y trompe pas. Fin lettré, il a compris l'intérêt plus mythologique que réaliste du roman et décide d'en faire une sorte de Rahan en vrai, c'est-à-dire une bande dessinée à la Metal Hurlant qui a tout compris du pouvoir du grand écran. La lourde tâche d'adapter ce récit en scénario revient à Gérard Braque. Donc, j'ai une scénariste de légende, hein, qui passe allègrement de Marco Ferreri à Roman Polanski, en passant par Philippe de Broca, Antonioni ou encore Konchalonski. Hein, ben, il entamera par l'occasion une alliance fructueuse avec Hano, car les deux compères ne se quitteront qu'à la mort de Braque en 2007, pendant la production du très mal aimé, pourtant moi que je trouve formidable, hein, Sa Majesté Minor. Il sera aidé par un invité de marque, hein, pour les besoins de ce scénario... comme les autres, hein, ben c'est le Britannique Anthony Burgess, c'est l'auteur du roman L'Orange Mécanique, plus tard adapté par Kubrick. Et donc Anthony Burgess est aussi un linguiste qui va aider à créer ce langage primitif entendu dans le film. Alors entendu ou mamoné, ça dépend. Alors ce qui rend précieux La guerre du feu, hein, au-delà de toutes les qualités précitées, bah c'est que paradoxalement, il est encore plus unique aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Hein. Aujourd'hui, produire un tel film serait littéralement impossible. Même Pixar, qui s'était essayé au récit mutique, hein, avec le brillant Wall-E en 2008, avait dû mettre, hein, des dialogues dans sa seconde partie quand le petit robot rencontre enfin les humains et interagit avec eux. Or, La guerre du feu, hein, grand spectacle, hein, et donc coûteux, fait fi de toute approche moderne et développe une foi totale dans le pouvoir du langage cinématographique. Hano ne se repose pas tant sur le souvenir, désormais un peu lointain, hein, du livre d'origine et de sa popularité. Non, il convie toutes les muses du 7e art pour l'aider à rendre crédible sa préhistoire fantasmée. On oscille constamment entre beauté de la nature au pluriel et travaux plastiques artificiels invisibles qui décuplent la puissance de ce récit des origines. Cette ligne de conduite se retrouvera jusque dans la promotion du film, facilitée par la magnifique affiche dessinée par Philippe Druyer. Alors, quand je parlais de génération Metal Hurlant, vous voyez qu'on rêverait aujourd'hui d'une telle confiance et de complicité envers et avec le spectateur. plus fou encore, hein, y a le fait que le film a été un gros succès planétaire qui sera récompensé par des Césars, des Oscars, des Golden Globes, ben, ouvrant pour un nom après deux films plus modestes, dont le génial coup de tête, hein, un boulevard, hein, pour laisser s'exprimer ses grandes ambitions au service de films et productions de plus en plus spectaculaires. Rappelez-vous par exemple qu'il a signé Guillaumet, hein, Les Ailes du Courage, soit le tout premier film de fiction utilisant le procédé IMAX. La Guerre du Feu restera donc celui qui a tout lancé. Un film, on peut dire, un chef-d'œuvre à sa manière, audacieux, qui fait résonner notre cinéma dans le monde entier et qui ressuscite aujourd'hui donc en Blu-ray après une première édition au transfert proprement immonde. La Guerre du Feu, bah, c'est un peu la part du Seigneur de l'anneau.
Et si on veut aller plus loin, hein, sur ce sujet, tu parlais finalement de l'invraisemblance parfois, enfin de cette histoire mise en image par Jean-Jacques Haneau, il y a un film de Jacques Malaterre qui s'appelle A.O. le dernier Néandertal, qui fait office de référence, un film de 2010.
Puis il y a une excellente parodie qui s'appelle Caveman de Carl Gottlieb, produite par Ringo Starr et avec Ringo Starr.
Et ça, c'était quand ?
C'était en 82, je crois, l'année d'après la réalisation de La Guerre du Feu. Et pareil, ils disent pas un mot et c'est très, très, très drôle.
Voilà, bah, ça vous fait trois films.
Il y a un dinosaure qui louche, si je me rappelle bien.
Il y a quoi ?
Il y a un gros dinosaure qui louche aussi,
oui,
si
oui,
je me rappelle bien.
Des dinosaures en image, image par image. Puis il y a une mouche géante. Enfin bon, il y a des insectes géants, je veux dire.
D'accord, c'est encore plus invraisemblable, donc là.
This is Cinerama.
À l'occasion de la sortie sur Canal Plus première de La Grande Traversée, dernier long métrage de Steven Soderbergh avec Meryl Streep, Candice Bergen et Diane West, nous allons jouer un blind test avec la conséquente filmographie du réalisateur américain.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
C'est une trentaine de films, hein, pour ce réalisateur, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le répète, capable de faire des films de commande, des films grand public, et vous en avez sûrement en tête, ou alors des films complètement indépendants qui ne dépassent pas 20 000 spectateurs en salle. Mais on va commencer par un film plutôt facile, histoire de vous mettre en confiance.
Et donc, en dépit de tous nos efforts, elle n'a pas réagi.
D'accord.
Son cœur s'est arrêté de battre.
Ok.
Il se trouve, hélas, qu'elle est décédée.
D'accord.
Toutes mes condoléances, monsieur Emhoff.
Je sais que ce n'est pas facile à accepter.
D'accord. Et maintenant, je peux aller lui parler ?
Monsieur Emhoff, je suis désolé. Votre femme est morte.
Oui, mais enfin, je viens de la voir. On était à la maison.
Y a-t-il quelqu'un que l'on peut contacter ? Quelqu'un que vous aimeriez à vos côtés ?
Ça a été trouvé, Guillaume.
C'est Contagion ?
Bah oui, avec Marion Cotillard, Matt Damon, qu'on entendait là, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow, rien que ça. Film dont on a évidemment beaucoup reparlé. Contagion raconte comment une pandémie dévastatrice explose à l'échelle du globe et comment les humains s'organisent. Alors tout y est, la mort, la course au vaccin, les mesures de confinement, la recherche du patient zéro et les complotistes. Pour Matt Damon, que l'on entend ici dans cet extrait. C'est la sixième collaboration avec Steven Soderbergh après la trilogie Oceans, après Che, deuxième partie, et puis The Informant. Alors seulement 686 000 spectateurs en France, mais bien plus en 2020 devant leur écran, évidemment, hein, puisque en février 2020, le film atteint le 10e rang des films les plus téléchargés sur iTunes, juste derrière Joker et Parasite. Deuxième extrait de ce blind test spécial Steven Soderbergh, évidemment, il faut deviner le titre.
Et si les événements actuels se reproduisaient sur Terre à l'échelle planétaire ? Quoi, ça vous tracasse pas plus que ça ? C'est une grossière erreur de postuler que cette chose est bienveillante. Si ça se trouve, elle nous pousse à la psychose pour qu'on s'entretue.
Vous croyez vraiment que c'est leur objectif ? Cette chose a eu les moyens de faire tout ce qu'elle voulait, y compris nous détruire.
Soyez au labo dans une heure.
Je ne vous laisserai pas faire.
Et comment vous nous arrêterez ?
Et comment vous m'empêcherez de la ramener ?
Est-ce que vous voulez qu'on ramasse l'autre en chemin ? Ça sera pas difficile. On calcule sa trajectoire, il y en a pour quoi ? Une journée ?
Trouvé, Manu.
C'est Solaris.
Film de 2002 avec George Clooney, dont on entend la voix française ici. Drame psychologique se cachant derrière un faux film de science-fiction. Solaris est l'adaptation de l'ouvrage éponyme du polonais Stanislas Lem, paru en 61, et déjà adapté dans le film russe du même nom d'Andrei Tarkovsky, ce film est sorti en 72. Et Solaris raconte l'histoire du psychologue Chris Kelvin, envoyé à bord d'une station spatiale tournant autour de l'étrange planète Solaris, et qui voir réapparaître sa femme pourtant décédée quelques années plus tôt. À nous la mémoire, la culpabilité et la rédemption. Alors, sachez que le film est produit par James Cameron, qui voulait au préalable en assurer la réalisation, mais finalement, elle a été confiée à Steven Soderbergh, qui a refait le scénario. Et ça a conquis 445 000 spectateurs en France. Allez, encore un nouveau film de Soderbergh à deviner.
Je trouve qu'on surestime beaucoup le sexe. Je crois que pour la plupart, les gens lui prêtent une importance exagérée. Et je crois fausse l'affirmation que les femmes éprouvent le même désir que les hommes. Je pense aussi que les femmes en ont autant envie, mais pas pour les mêmes raisons qu'eux. Et je me perds un peu. J'espère que vous me comprenez.
Oui. Tenez, ça me rappelle un truc que j'ai lu. On prétend que les hommes, eux, apprennent à aimer la personne qui les attire. Alors que les femmes, elles, sont de plus en plus attirées vers la personne qu'elles aiment.
Trouvé, Guillaume.
C'est celui par lequel tout a commencé, c'est Sexe, mensonge et vidéo.
Et oui, film de 89, coup d'éclat à Cannes, où il reçoit deux prix, la Palme d'Or et le prix d'interprétation masculine pour James Spader. Sexe, mensonge et vidéo est un film étonnant, hein, qui nous fait suivre Graham Dalton. Le jeune homme collectionne les interviews vidéo de femmes qui racontent leur vie sexuelle. Et de retour dans sa ville natale, il retrouve un ancien copain de fac qui a réussi, entre guillemets, et puis sa femme, que l'on entend ici. Les conséquences vont être surprenantes pour tous. James Spader, Andy McDowell et Peter Gallagher dans ce film qui a réuni 1,4 million de spectateurs en France. C'était en 89. Allez, un nouvel extrait de la filmographie de Soderbergh à deviner.
Vous êtes anglais. Vous avez étudié en Angleterre. Pourquoi avez-vous décidé de pratiquer aux États-Unis?
Eh bien, par exemple, d'où je viens, quand les gens consultent un psychiatre ou prennent des médicaments, on va supposer qu'ils sont souffrants. Ici, on va supposer que leur état s'améliore.
Je vois. Votre première rencontre avec Madame Taylor a eu lieu après une tentative de suicide, n'est-ce pas?
Elle a lancé sa voiture contre un mur.
Et vous avez décidé de ne pas l'hospitaliser?
Elle disait que sa tentative de suicide était un égarement passager. Et elle exprimait le désir d'aller mieux. Et son mari la voulait à la maison. Et aussi, elle n'avait aucun antécédent de comportement violent.
Lancer son auto contre un mur n'est pas violent.
C'est trouvé, Manu.
C'est effet secondaire, hein. Son film à la De Palma, son seul.
Film de 2013 avec Jude Law, que l'on entend ici. Il y a aussi René Mara, Catherine Zeta-Jones et Channing Tatum. Thriller psychologique centré sur la psychopharmacologie. Effet secondaire nous plonge dans une affaire de meurtre, celui du mari d'Emily, retrouvée couverte de sang, un couteau à la main, le cadavre à ses pieds sans qu'elle ne se souvienne de quoi que ce soit. Et depuis quelque temps, eh bien, elle voyait le Dr Banks, un psychiatre ambitieux qui lui avait prescrit une nouvelle molécule. 485 000 spectateurs en France pour ce thriller. Allez, on termine avec un four intégral de Steven Soderbergh, au moins en France.
Ils vont quand même pas traîner tout le pays en justice, dites-moi.
Vous trouveriez ça injuste?
Ça me semble pas très américain de mettre des gens en prison pour des faits qui ont absolument rien à voir avec eux.
Vous pensez à quelqu'un de précis?
Je disais ça en l'air.
Voilà un titre qui ferait vendre. Les femmes déchues du Troisième Reich.
C'est plutôt vache, ça.
Il n'y a pas eu des millions de disparus parce que les lutins sortaient du bois la nuit. Votre Fräulein savait tout à fait ce qu'Hitler faisait, ils savaient tous. Et a-t-elle levé le petit doigt?
Vous ne la connaissez même pas.
Et vous?
Faut pas croire que tout Allemand est forcément un nazi.
La question est posée, Guillaume.
C'est The Good German?
Oui, film de 2006, adapté du roman de Joseph Cannon, L'ami allemand. Le film dans lequel on retrouve George Clooney et Cate Blanchett est entièrement tourné en noir et blanc. Le film se déroule dans les ruines de Berlin après la Seconde Guerre mondiale, où le correspondant de guerre de l'armée américaine, donc interprété par George Clooney, eh bien, se mêle à Cate Blanchett, une ancienne amante qui tente d'échapper à son passé au lendemain de la guerre. Alors je disais que c'était un four parce que c'est 106 000 entrées en France seulement. Il n'est pas resté très très longtemps ce film, mais je crois qu'il a peut-être pas engrangé tellement de bénéfices au niveau mondial.
Ouais, le noir et blanc, la Michael Curtis, c'était pas très populaire à l'époque.
J'imagine. Les films de Steven Soderbergh cumulent plus de 20 000 entrées en France avec une moyenne de 722 000 spectateurs. Vous me direz, c'est moins que Titanic, sûrement. Hein, Le plus grand nombre d'entrées, c'est Ocean Eleven, avec plus de 4,6 millions d'entrées. Puis il y a 7 films quand même en dessous de 100 000 entrées, dont Le Schizopolis, film sans logique linéaire dans lequel le réalisateur se met en scène. Le film est d'ailleurs sorti en vidéo dans la Criterion Collection avec des commentaires audio, dont un dans lequel le réalisateur s'interviewe lui-même. Voilà. Bon, il est allé jusqu'au bout et ce film Schizopolis avait été présenté en 96 à Cannes. Il avait été mal accueilli et Soderbergh, dans la copie d'ailleurs que j'ai vue, ajoute en préambule du film, dans le cas où vous trouveriez certaines scènes ou idées confuses, gardez s'il vous plaît l'idée que c'est de votre faute, pas la nôtre. Vous devrez voir ce film encore et encore jusqu'à ce que vous compreniez tout. C'était facétieux, évidemment, de la part de Soderbergh. C'est un film qui a coûté 250 000 dollars, sachant que bon, la majorité de ses films vont au-delà des 10 millions, 20 millions, voire 50 millions pour certains.
Alors, je ne suis pas très grand fan de sa filmographie, mais tout ce que tu dis là me donne vraiment envie de m'y replonger et d'écouter en plus ce commentaire audio.
Alors donc, les entrées en France, j'en termine. Hein. C'est Ocean Eleven, Ocean 12, Erin Brockovich en 3, Trafic. Grand succès. Et puis Ocean 13, donc on peut dire que quand même les Ocean ont très très bien fonctionné en France. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Steven Soderbergh avant de retrouver dans de prochaines années encore eh bien, un blind test dédié à ce réalisateur qui est plutôt prolifique. Sanglant et romantique, le film coréen Night in Paradise, c'est Marine qui nous en parle.
This is Cinerama.
Et ça c'est clair.
Park Tae-go est ce que l'on appelle un kangpei, un gangster, un yakuza à la coréenne. Pris dans une guerre entre clans rivaux, il en paiera très cher le prix. Mû par un désir de vengeance et de vérité, il va faire couler beaucoup, beaucoup de sang sur sa route. Alors si vous n'avez jamais vu de thriller coréen, Night in Paradise constituera sans doute une bonne entrée en la matière, à condition toutefois de très rapidement passer au film de Na Hong-jin, Park Chan-wook, Bong Joon-ho ou encore Kim Ji-woon. Par ailleurs, le réalisateur de Night in Paradise, Park Hong-jun, dont c'est le premier film, s'est tout d'abord illustré comme scénariste de J'ai rencontré le diable, réalisation la plus notable de Kim Ji-woon. Night in Paradise devait initialement sortir en salle. Il est d'ailleurs auréolé du macaron de la Mostra de Venise, même s'il était présenté hors compétition. Finalement récupéré par Netflix, il y a tout à fait sa place, puisque l'on croirait un film produit par Netflix pour faire exactement ce que le public occidental attend du cinéma coréen. Nous avons donc une intrigue assez simpliste, ancrée dans un milieu de gangsters, une histoire de vengeance, un titre en anglais qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec ce que le film raconte, la pluie, les bains, la jeune fille à sauver, l'alcool, le mélange des genres, entre rire, larmes et mélo, et les meurtres inopinés que l'on finit par sentir arriver, à force qu'ils surgissent une fois toutes les 5 minutes minimum. Bref, tous les clichés du thriller coréen sont là. Night in Paradise se caractérise par une savante alternance de scènes contemplatives, mais pas trop, pour ne pas ennuyer le spectateur, et de scènes d'ultra-violence, mais pas trop, pour ne pas perdre le spectateur. Le film est divertissant, hein, les combats sont solidement chorégraphiés, l'image extrêmement soignée, la lumière très réussie. Certaines scènes s'illustrent par un suspense brillant, mais d'autres, notamment la dernière séquence, qui est en plus très longue, sont beaucoup trop gratuites et répétitives, se contentant de faire gicler un maximum d'hémoglobine. Night in Paradise n'est pas un mauvais film, mais vous ne vous rappellerez pas d'un seul plan, d'une seule scène, une fois le film terminé. Techniquement, tout est parfait, il manque juste un peu d'inspiration.
Night in Paradise, donc, c'est sur Netflix. Des yeux maléfiques, maintenant. C'est un film sorti en 90 avec un duo de réalisateurs connus, talentueux, Dario Argento et George Romero.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
À l'origine du projet de Deux yeux maléfiques, dans la grande tradition des films à sketch horrifiques des contes de la crypte aux productions Amicus telles que Histoire d'outre-tombe ou Le caveau de la terreur, devait comporter quatre segments réalisés par quatre maîtres du genre, donc John Carpenter, Wes Craven, George Romero et Dario Argento. Alors seuls ces deux derniers, après les désistements des autres, sont restés et ont tenté de mener à bien un projet, il faut le dire, un peu bancal dès sa conception. 12 ans après leur collaboration sur Zombie, Dario Argento d'ailleurs en tant que producteur et Romero en tant que réalisateur, se retrouvent et adaptent chacun une nouvelle d'Edgar Poe de près d'une heure. Alors le film donc devient un diptyque, format atypique et un peu étrange, hein, donnant l'impression de regarder deux petits téléfilms à la suite, issus d'une anthologie du plus célèbre écrivain d'épouvante américain. Mais ne boudons pas notre plaisir devant un projet qui a bien failli ne jamais voir le jour, sorti dans une totale indifférence dans les salles françaises l'été 91, éreinté alors par des critiques très déçues. Hein, le film ressort aujourd'hui dans un beau combo DVD Blu-ray bardé de bonus. L'édition luxueuse mérite telle que les amateurs de cinéma d'épouvante mettent la main au portefeuille. Alors si le résultat imparfait est sans doute handicapé par une production chaotique ne convainc pas totalement, il n'en reste pas moins attachant et intéressant à bien des égards. La sincérité des cinéastes est intacte, délivrant chacun leur vision personnelle de l'univers de l'auteur de la chute de la maison Usher. Georges Romero s'empare d'une nouvelle méconnue, un peu adaptée au cinéma, la vérité sur le cas Monsieur Valdemar, hein, si ce n'est en 1936 en Italie pour les besoins d'un court-métrage par Gianno Oppli et Ubaldo Magnaghi, et en 63 pour un des segments de l'Empire de la Terreur de Roger Corman. Alors Ernest Valdemar se meurt prématurément, sa femme et son amant, le docteur Hoffman, décident d'extorquer l'argent du mari mourant avant que celui-ci ne trépasse. Alors pour mener à bien leur projet macabre, ils utilisent l'hypnose afin de soutirer la signature et l'accord téléphonique du vieillard cloué par la maladie dans son lit.
Chérie, il faut absolument que tu te calmes.
Je ne pourrais pas passer la nuit toute seule. Je ne le supporterai pas.
Si ça peut te rassurer. Tu ne vas pas te mettre à faire des bêtises, j'espère. Il faut que tu arrives à te dominer. Parce que sinon, dis-le maintenant. Histoire que je commence à assurer un peu mes arrières, chérie.
Je t'adore. T'as une façon de présenter les choses en toute simplicité. Je te prie de m'excuser, Robert, de ne pas être aussi insensible que toi. Je n'ai pas fait médecine, je n'ai pas l'habitude de voir des cadavres tous les matins.
Débutant comme un polar classique, hein, avec la figure triangulaire du mari, de la femme et de l'amant, la vérité sur le cas de M. Valdemar glisse progressivement vers le surnaturel, déployant une atmosphère héritée des EC Comics, univers que Romero connaît bien pour avoir réalisé Creepshow, d'ailleurs d'après Stephen King. Alors de ce dernier, on retrouve par ailleurs dans la distribution plusieurs comédiens présents, dont Adrienne Barbeau, ex-femme de John Carpenter d'ailleurs, E.J. Marshall et Tom Atkins. Alors Georges Romero soigne particulièrement l'ambiance du film, privilégiant les couleurs froides et sombres en adéquation avec un récit morbide et glaçant, très épuré formellement. Certes, ce segment s'avère trop long, entaché de longs tunnels de dialogue nuisant au rythme de l'ensemble, mais le métier du cinéaste est intact dans la description mortifère de personnages crapuleux rattrapés par leur veulerie lors des 10 dernières minutes où le papa de la nuit des morts-vivants se lâche enfin dans le gore grâce aux effets spéciaux très réussis de Tom Savini. Dans une tonalité très différente, Dario Argento en roue libre délivre un furieux pastiche du chat noir, insufflant un humour noir et une sauvagerie féroce. Alors l'histoire, bien connue de tout le monde, a été adaptée de nombreuses fois à l'écran, de Edgar Ulmer à Lucio Fulci. Alors, Rod Usher, qui provient évidemment du personnage de la chute de la maison Usher, est un photographe couvrant des meurtres les plus atroces, se délectant de mutilations diverses. Un jour, sa compagne violoniste recueille un chat. Énervé par la présence de l'animal, Usher va progressivement perdre l'esprit et devenir de plus en plus parano.
Que lui as-tu fait? Je l'ai entendu miauler.
Il y a juste que ton Missy Gris s'est pris la queue dans la porte. Elle a rien. Mais en fait, comment elle s'appelle?
C'est un secret. Ne lui fais pas mal.
Pas vraiment remis de opéra, l'un de ses films les plus nihilistes, Argento explore à nouveau la noirceur de l'âme humaine, mais cette fois-ci avec beaucoup de distanciation, voire d'autocritique dans ce joyeux bordel, incompris à sa sortie, taxé d'ailleurs injustement de misogyne. Il bénéficie surtout de l'interprétation borderline de Harvey Keitel, qui était pas dans sa pente ascendante, je dirais, à cette époque-là, assez génial en photographe qui voit sa raison vaciller. Alors, les meurtres sanglants se succèdent, orchestrés par une mise en scène baroque, multipliant les vues subjectives, du chat notamment, les effets de montage et les mouvements de caméra sophistiqués. Alors, très divertissant, pour peu que l'on soit d'humeur misanthrope, cette relecture très libre du texte poétique de Poe s'achève par une révélation grand guignol terrifiante, alors, hélas, juste gâchée par un dernier plan indigne de son auteur. Alors, malgré ses défauts, Deux yeux maléfiques mérite une réévaluation de la part de deux auteurs qui étaient en 90, on va dire, dans une phase un peu difficile sur le plan créatif.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie.
La semaine prochaine, on revient avec des films soit en DVD, soit en VOD, soit en Blu-ray, mais aussi sur des chaînes de télévision. Avec toi, Guillaume.
C'est ça, on a un petit goût espagnol dans la bouche avec le dernier Balaguero, Way Down.